Radio Kapi. Oh, Kapi.
Grâce à Mzati Masanzi à la présentation.
Au sommaire de ce journal, la cohabitation entre les FRDC et les Wazalendo est marquée par des tensions, notamment dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Ces deux forces opèrent sous des commandements parallèles, rendant ainsi la coordination opérationnelle difficile. Les Wazalendo refusent de s'unir avec les FRDC qu'ils accusent d'être corrompus par l'ennemi, rapportent des sources locales. Dans la commune de Hicha, chef-lieu du territoire de Beni au nord Kivu, un réseau de bandits s'en prend aux enfants, les tuant et emportant certains de leurs organes pour des raisons encore inconnues. Alerte lancée par le bourgmestre adjoint de la commune, Jean-Dédé Kibwana, qui appelle les parents à plus de vigilance. Notre invitée est la directrice générale de l'agence de communication dénommée Responsabilité sociétale des entreprises au Kassai Oriental. Elle nous parle de la journée sectorielle sur les mines, la résilience et le développement dans l'Est de la RDC qui a réuni le mardi les femmes évoluant dans les secteurs des mines, des médias, de la santé ainsi que quelques directeurs des entreprises publiques. Bonjour à tous. Au sud Kivu, la situation sécuritaire demeure relativement calme dans la ville d'Uvira et dans une partie de la plaine de la Ruzizi, malgré quelques cas de dérapage qui y sont rapportés. Les Wazalendo et les FRDC, qui sont les deux forces en place, constituent deux commandements parallèles, ce qui rend difficile la coordination sur le plan opérationnel. Ronelli Ntibonera.
L'incompréhension palpable entre les deux forces qui sont pourtant déterminées à stopper la progression des rebelles sur la ville d'Uvira fragilise leur unité dans le commandement des opérations militaires. Les Wazalendo s'opposent à l'unicité avec les forces de l'armée régulière qui, selon eux, seraient corrompues pour faire tomber Uvira à l'instar d'autres villes comme Bukavu et Goma. D'après nos sources des services de l'administration urbaine d'Uvira, ces divergences sont la conséquence des intérêts égoïstes visés par chacune des forces en présence. Une réunion de rapprochement de vues est prévue à Uvira ce week-end entre les Wazalendo et les FRDC, renseignent les mêmes sources administratives. L'autorité de l'État est quasi inexistante dans cette ville, s'exclame un agent de la mairie d'Uvira. Pas de police ni de cours et tribunaux. Le banque et toutes les institutions de microfinance sont fermées. Les activités scolaires et académiques tournent au ralenti. Pendant ces temps, le M23 et son allié l'armée rwandaise fixent leur base à Kamanyola, tandis que leur position avancée se trouve à Katogota sur la RN5 qui mène à Uvira.
Pendant ce temps, dans le territoire de Djouganitori, des nouveaux combats ont été signalés jeudi entre la milice Codeco et les troupes de l'armée ougandaise UPDF dans les villages Bethlehem vers Fataki. Des sources concordantes rapportent des cas de morts et des blessés de part et d'autre. Cependant, des sources sécuritaires dans la région accusent des éléments de la milice d'autodéfense Zaïr d'être à la base de ces nouveaux affrontements. Ezekiel Mouzalia pour les détails.
Des sources concordantes dans la région rapportent que des miliciens des Zaïre ont fait incursion jeudi dans le village d'Androu, chef-lieu du groupement Fataki. Sur place, ils auraient incendié plusieurs maisons d'habitation et emporté des biens de valeur. Une situation qui a provoqué un nouvel exode des populations vers l'Oda. Il n'en fallait pas plus pour que la Codeco s'invite au débat. Ces miliciens ont repoussé ceux des Zaïre jusqu'au niveau du village de Bethlehem, où ils se seraient réfugiés, rapportent nos sources. Ce qui a eu pour conséquence la reprise des combats entre les troupes de l'armée ougandaise et la Codeco. Plusieurs villages, notamment ceux situés sur les tronçons Djaïba, Sanduku et une partie de Fataki, sont vidés de leurs habitants à la suite de ces affrontements. Des milliers d'entre eux passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres à côté de la base de la MONUSCO. L'administrateur du territoire des Djougou indique que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour dénicher les auteurs de ces actes de violation des droits de l'homme. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
En mission d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Tanganyika face à l'agression du Rwanda et ses alliés, le commandant de la 22e région militaire a présidé hier une parade militaire à Kalemi. D'après le service de communication et d'information des forces armées, le général Eddy Kapen a rappelé aux militaires la mission des FRDC et a insisté sur la discipline militaire. Le point avec Paul Mounanga.
Au cours de cet entretien avec les militaires des FRDC, le commandant de la 22e région militaire fait un rappel, celui de ne jamais trahir le Congo, et cette devise doit être d'application au sein des forces armées, indique les services de communication et d'information militaire. Le général Eddy Kapens met un accent particulier sur les relations civilo-militaires en vue d'une bonne cohabitation avec la population pendant cette période de guerre, rapporte la même source. En outre, il lance un appel aux officiers à une bonne gestion des troupes sous leur commandement en insistant sur certains actes de démoralisation des militaires engagés au front, des actes caractérisés par l'utilisation abusive des téléphones pendant les opérations. Au cours de cette parade militaire, le général Eddy Kapenz a réarmé le moral des troupes dans le but d'une détermination totale pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Enfin, le service de communication et d'information des forces armées annonce que la situation sécuritaire demeure calme dans la province du Tanganyika.
Merci à vous, Paulin Munanga. Le gouvernement congolais déplore 73 assassinats, des viols et le recrutement forcé des jeunes et des enfants dans les zones sous occupation du M23 soutenues par l'armée rwandaise. C'est ce qu'a rapporté son porte-parole Patrick Muyaya hier lors du compte rendu à l'issue du Conseil des ministres. Le condensé de Karine Topéridassi rendu par Jacques-Yves Moulima.
Dans ses comptes rendus, Patrick Muyaya a rapporté des violations massives des droits humains dans les zones occupées par les rebelles du M23 RDF, notamment 73 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 112 cas de torture corporelle, des disparitions et enlèvements, des recrutements forcés des jeunes et enfants et des viols. Il a également déploré l'installation d'une administration parallèle instaurée par les rebelles dans les territoires occupés ainsi que des attaques continues des positions des FRDC à Moulamba et Boulungu malgré un communiqué du M23 annonçant son retrait de Walikale le 22 mars dernier et en dépit des appels à un cessez-le-feu. Patrick Muyaya a rappelé la détermination des forces armées de la RDC à défendre les territoires nationaux face à ces agressions. Cette déclaration s'inscrit dans le contexte de tensions persistantes avec le Rwanda accusé par Kinshasa de soutenir le M23 RDF. Patrick Muyaya avait déjà condamné en février dernier les discours de haine attribués au Rwanda, soulignant l'unité des 450 ethnies congolaises.
Politique à présent, les consultations politiques que mène le conseiller spécial du chef de l'État connaissent une trêve ce week-end. Elles reprennent le lundi, renseigne sa cellule de communication. Hier vendredi, quelques personnalités et d'autres regroupements membres de l'Union sacrée ont échangé avec Eberhan Kolongele. C'est le cas de Sami Badibanga, ancien premier ministre, Justin Bitakwira, le sénateur Omana Bitika, ainsi que la mosaïque des regroupements formant la majorité extra-parlementaire. Billy Van Lutumba nous résume quelques interventions.
Au cinquième jour de ces consultations, des appels envers toutes les autres forces vives et politiques à rejoindre cette initiative se multiplient de la part des délégations reçues jusque-là. Justin Bitakwira.
Formons un seul corps et que tous ceux qui hésitent encore sachent qu'ils n'ont pas un autre pays. Je ne peux pas vous dire combien ils tuent par jour. Je ne peux pas vous compter ce qu'ils pillent comme bien et amener de l'autre côté du monde. Je ne peux pas vous dire combien déjà ne sortent plus de leur maison. Et nous avons répondu à cet appel pour connaître le chef de l'État, à former ce que j'appellerai aujourd'hui les léopards politiques et pour faire face à la menace.
Quand une maison brûle, on ne s'attarde pas à tenir des réunions des familles, il faut par contre s'adonner à éteindre le feu. C'est en ces termes que l'ancien premier ministre Sami Badibanga interpelle pour une unité nationale.
Tout peuple qui perd le contrôle de ses frontières perd la maîtrise de son destin et donc de son avenir. Nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir recouvrir nos frontières. C'est un principe qui n'est pas du tout discutable et tout ce que je peux dire, c'est de demander à la société civile, à l'opposition, de bien vouloir répondre à cette invitation. Même s'ils ne sont pas d'accord sur certaines choses, ce serait préférable qu'ils viennent le dire et à partir de là, une discussion peut s'engager.
Signalons qu'au cours de toute cette semaine, ce sont exclusivement les regroupements proches du président de la République qui ont rencontré Eberhan Kolongele. La semaine à suivre, on s'attend à voir ceux de la société civile et de l'opposition.
Autre nouvelle sur la radio de la paix, au Nord Kivu, le bourgmestre adjoint de la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, alerte sur un réseau de bandits qui ciblent des enfants depuis un certain temps dans son entité. Selon Jean de Dieu Kibwana, ces bandits tuent et emportent certains organes de leurs victimes pour des raisons inconnues. Il appelle les parents à plus de prudence et annonce également des enquêtes pour démanteler ces réseaux de malfaiteurs. Jean de Dieu Kibwana a été interrogé par nos confrères de la radio Moto Butembo Beni. Voici un extrait de sa déclaration choisie par Guylaine Kassassien.
Nous alertons la population d'Oïcha sur un mouvement de personnes qui enlèvent les enfants. Vous savez, la voie passée, il y a eu un enfant qui a été enlevé par des bandits. Avant-hier, au quartier Mbimbi, dans la cellule Maïsafi, il y a un enfant du sexe féminin qui a été aussi tué après avoir enlevé certaines parties du corps. Nos hypothèses, c'est qu'il y a déjà certaines personnes, peut-être ils sont demandés ou trompés, soit en disant qu'on va leur donner de l'argent. On leur demande d'aller chercher certaines parties du corps des enfants. Nos enquêtes sont à court et on voudrait coûte que coûte trouver la personne et les complices qui ont exécuté cet enfant. C'est horrible, ça fait du mal si un enfant de 2 ans, on doit effectivement prendre les parties de ce corps, peut-être parce qu'on veut avoir de l'argent, je ne sais pas si on veut faire quoi avec ces parties. C'est vraiment horrible. Les parents, soyons prudents, protégeons nos enfants et nous tous dans l'assemblée, nous devons nous surveiller mutuellement pour que nous puissions vraiment dénicher ce malfrat.
Revenons à Ituri où 21 officiers de la police nationale congolaise ont clôturé ce vendredi à Bunia une formation de 3 mois en technique culturelle et d'élevage. Il s'agit d'une formation qui vise à préparer ces officiers à une vie d'autonomisation pendant leur retraite. Parmi les lauréats, le commissaire provincial de la police, le général Ngoy Sengeloa. Des explications avec Sadiq Aboubakar.
La formation a été organisée en collaboration avec l'ASBL, les rebâtisseurs, un centre de formation professionnelle et des métiers. L'objectif est de pousser ces officiers à préparer leur retraite pendant qu'ils sont encore actifs. Le pasteur James Biensi est le coordinateur de l'ASPL, les rebâtisseurs.
C'est l'éveil de la conscience suite à la retraite de beaucoup d'officiers qui, une fois qu'ils terminent, ils se retrouvent n'ayant pas grand-chose à faire. La vérité, c'est que l'enveloppe salariale que beaucoup reçoivent n'est pas à mesure de les prendre en charge totalement.
Ils ont appris la technique de l'agriculture et de l'élevage. Jean-Claude Tchouvi, le formateur, appelle les lauréats à mettre en pratique toutes les notions en technique culturelle apprises en vue de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le général Ngoy Sengeloa, commissaire provincial de la police, fait partie des lauréats. Il affirme qu'en temps de paix, la police peut également contribuer au développement du pays.
La police nationale congolaise n'a pas seulement mission d'être devant la foule en manifestation pour la calmer, mais elle peut tout faire en temps de paix pour prendre part active à l'essor holistique de la nation, notamment dans l'agriculture et l'élevage.
Le centre a doté chaque lauréat d'un kit aratoire et de semences. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, parlons de cet appel à l'aide de l'ONG Edo Vero, une structure qui encadre des enfants pour participer aux concours internationaux. 6 élèves qui l'encadrent doivent représenter la RDC à un concours intercontinental d'épellation prévu du 9 au 13 avril au Nigeria. Mais l'ONG a besoin de l'accompagnement de leur tutelle, les ministères de l'éducation et de la culture, ainsi que d'autres partenaires du secteur éducatif. Écoutons Jonathan Elenga, vice-président de cette ONG, au micro de Gloria Lutula.
Notre ONG a fait son devoir habituel. C'est lui de trouver les élèves qu'il faut pour représenter le pays. Nous avons essayé de travailler avec des écoles, mais force est de constater qu'il n'y a qu'une seule école, Kinshasa Christian School, qui justement s'est montrée très collaboratrice avec nous. Nous avons 6 élèves de cette école-là qui vont représenter la RDC dans ces concours continentaux. Nous sommes en train de vouloir quitter le pays sans un seul appui de notre gouvernement, alors que parmi les 22 pays, chaque pays est en train d'accompagner ses enfants. Alors nous avons depuis 2024 introduit des demandes d'audience. Le concours, c'est du 9 au 13 avril. Nous devons quitter le pays au plus tard le 8. Si je passe à Radio Capi, c'est pour lancer ces cris d'alerte, demander aux autorités du pays, à toutes ces organisations qui s'intéressent aux enfants, d'accompagner en fait nos enfants qui sont sur le point de partir représenter la RDC au Nigeria, précisément de la ville d'Abuja.
Notons que l'ONG a son siège au village Silikine dans la concession Utex Africa à Kinshasa, Ngaliema.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le musellement de toute voix dissidente est devenu la règle. C'est la déclaration de Human Rights Watch vendredi 28 mars. L'ONG de défense des droits humains s'alarme de la série d'arrestations qui s'enchaînent à un rythme particulièrement inquiétant. À l'espace d'une semaine, au moins 8 personnes, dont 5 journalistes, ont été amenées par des hommes en civil sans mandat ni motif officiel. Tous sont détenus dans un lieu toujours inconnu à ce jour. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, la répression contre la presse s'accentue.
L'invité.
Au Kassai oriental, les femmes évoluant dans les secteurs des mines, des médias, de la santé ainsi que quelques directeurs des entreprises publiques ont pris part à une journée sectorielle sur les mines, la résilience et le développement à l'est de la RDC. Une activité organisée mardi dernier par l'agence de communication dénommée Responsabilité sociétale des entreprises, RC en sigle. Sa directrice générale, Mushia Kabeya, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Madame Mushia Kabeya, bonjour.
Bonjour madame.
Que signifie RSE?
Résilience RSE. Donc c'est une agence qui est spécialisée en RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça signifie de pouvoir s'occuper des questions sociétales, des questions sociales de l'entreprise, comme l'agriculture, l'environnement, la santé. Et là, effectivement, au mois de mars, nous nous occupons de l'objectif de développement 5, qui parle du genre et qui parle notamment de l'autonomisation des femmes.
Et pourquoi avoir organisé cette journée sectorielle dans la province du Kassai oriental?
Ça fait 11 ans que chaque année, nous organisons une rencontre de femmes, toujours à la rencontre des femmes professionnelles, les femmes employées, les femmes entrepreneurs, les femmes artistes, les femmes politiciennes, pour pouvoir mettre en avant la représentativité des femmes dans les secteurs d'activité. Prenons l'exemple du secteur minier. En RDC, la place de la femme, c'est 5%. La femme est représentée à hauteur de 5% dans le secteur minier en République démocratique du Congo, à hauteur de 15% sur le plan mondial. Et donc le but, c'est vraiment d'interroger certains secteurs d'activité et de demander comment, quelle est la représentativité des femmes dans la science, dans la politique, quels sont leurs défis, quelles sont leurs difficultés et quelles sont au contraire leurs opportunités en tant que femmes. Quand on regarde par exemple dans la politique, on voit actuellement le rôle que joue la femme dans la diplomatie. Et il y a même des gens qui disent même que si elle n'était pas femme, elle n'aurait pas fait les résultats qu'elle a fait là. Donc on est vraiment fiers de mettre en avant les femmes qui s'illustrent dans un secteur.
Et comme vous êtes à la deuxième édition ici chez nous. Avez-vous cherché à trouver les causes de cette sous-représentation des femmes dans le secteur des mines, aussi en politique?
Non, je n'ai pas la réponse complète. C'est justement ça, le but de ces rencontres sectorielles. On pense que c'est, comme c'est le mois de mars, c'est seulement pour les mamans. Non, au contraire, nous, ce qu'on aime, c'est qu'on a des problèmes, nous les femmes, mais on a des problèmes, on a des questions à poser aux hommes. Donc on aime quand l'homme aussi participe, à l'instar du DG, Monsieur André Kabanda, directeur général de la MIBA, de montrer que je suis peut-être un dirigeant, je suis peut-être un homme, mais je pars donner mon temps à la femme, je pars écouter les femmes, je pars écouter leurs propositions. Comme vous voyez là, il y avait directement une proposition de stage avec la seule jeune fille en formation d'ingénieur à l'université de Mbujimayi. Donc chaque homme de masculinité positive a de quoi passer aussi un bon moment avec nous.
Et la présence de Monsieur André Kabanda, qui est le directeur général de la MIBA dans la salle, est-ce qu'il avait une signification particulière?
Oui, vraiment, il a voulu montrer cet élan de masculinité positive, tout comme le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui-même, le président, avait lancé le concept de masculinité positive africain en RDC à Kinshasa en présence de deux ou trois autres chefs d'État africains. Pour que la femme restaure ses droits, il faut que l'homme aussi s'adapte et ait une bonne mentalité. Donc il a vraiment voulu montrer ça. En plus, quand ça vient de la tête, tout le monde suit l'exemple. C'est dans cet exemple-là que le DG de la MIBA a voulu montrer que c'est une rencontre des femmes dans les mines, mais il faut qu'on ait le directeur général de la principale entreprise minière de la région.
Il y a eu des thématiques qui ont été décortiquées. Quelle impression avez-vous après cette deuxième édition?
Les thématiques étaient vraiment intéressantes, de rappeler aux gens ce que c'est que le génocide, le génocide économique. On n'a pas encore fait assez de vulgarisation de cette expression. Nous avons abordé effectivement la féminisation des métiers du secteur minier. Nous avons également mis en avant la femme dans les médias, un outil aussi très important pour la population. En tout cas, cette année, nous mettons en avant la femme dans le secteur de la santé avec l'accompagnement du ministère de la Santé, Hygiène et prévoyance sociale. Et vraiment, encore une fois, cette question de femmes dans les mines qui est notamment portée par le cadastre minier, qui est le partenaire principal qui a vraiment souhaité accompagner cet événement.
Madame Mushia Kabeya, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité était avec Esther Ndalafina. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima. et Jude Mister Bilanda est mise en onde par Pierre Diassinois. À la présentation, Grâce à Mzati. Merci de l'avoir écouté.